Si je vous dis « il était une fois », des images se déclenchent immédiatement dans votre imaginaire d'enfant présent ou passé. Cette simple formule invite ainsi des fées, des animaux, une forêt magique, des nains, un roi, une princesse. Alors quand un spectacle prend le titre de « et à la fin il meurt », on tique et on se dit que les auteurs et comédiens de ce spectacle ont suffisamment mauvais esprit pour retenir l'intérêt de Radio Scénique, surtout au regard du sous-titre de ce même spectacle, La sale vérité sur les contes de fées. Dans notre studio aujourd'hui, c'est Antoine Brun, metteur en scène de ce « À la fin, il meurt » qui est invité. Un « À la fin, il meurt » qui est joué à la Manufacture des Abbesses. Antoine Brun est accompagné de Leïla Moguez qui figure dans la distribution. Dominique Paquet a quant à elle écrit « Abîme et surgissement, généalogie du merveilleux » paru aux presses universitaires de Bordeaux. Conte est merveilleux à l'antepère et il nous paraissait intéressant de cheminer rapidement avec elle dans l'histoire du conte et son adaptation au théâtre. Dominique Paquet sera ensuite notre invité. Si vous nous suivez, vous savez que Radio Scénique est en partenariat avec les EAT, écrivains et écrivaines associés du théâtre. Et récemment, les lauréats du prix des EAT Jeunesse pour 2025 ont été annoncés. Ce prix couronne un texte de théâtre destiné au jeune public. Stéphane Bins, qui présidait ce jury, sera avec nous et on verra avec lui ce que ce cru 2025 nous dit de la création théâtrale. Pascal Dutertre, comme de coutume, vous allez conclure Radio Scénique avec votre chronique architecturale. Vous continuez aujourd'hui votre série sur les lieux de théâtre et avec vous, on va essayer de comprendre s'il y a une architecture spécifique pour le théâtre.
Oui, Eric, la dernière fois, nous avons parlé du théâtre de boulevard. Nous allons voir cette fois-ci à quoi ça ressemble et qu'est-ce qui distingue une mairie ou une bibliothèque d'un théâtre. Ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui.
Pascal, c'est en fin d'émission que nous vous retrouverons. Vous avez le programme. On baisse les lumières de la salle, éteignez vos portables. Voici venue la 12e édition de Radio Scénique.
Radio Scénique par Éric Dotter. Le théâtre sur Aligre FM.
Antoine Brun, bonjour.
Bonjour.
Alors, on va, vous n'avez pas entendu, on va peut-être ouvrir votre micro. Antoine Brun, bonjour.
Bonjour.
Leïla Moguez, bonjour.
Bonjour.
Antoine, vous êtes le metteur en scène de cette comédie « À la fin, il meurt, la sale vérité sur les contes de fées ». Comment cette histoire a-t-elle commencé? Parce que ce texte, il existait.
Tout à fait, c'est une bande dessinée écrite par Lou Luby. Et tout simplement, déjà à la base, la couverture de la bande dessinée est très belle et elle m'a interpellé dans une boutique de bande dessinée. Donc je l'ai achetée et au bout de quelques pages seulement, j'ai compris qu'il y avait quelque chose à en faire.
Elle est hilarante. C'est une BD de 250 pages.
C'est ça.
Alors, roman graphique, BD, on peut discuter. Sur le dessous des contes.
Tout à fait. Donc c'est vraiment ces 250 pages. Donc on est quasiment sur une thèse à la fois très fouillée, très recherchée et très très drôle sur les contes de fées et tous les sujets qu'on peut imaginer. L'origine des contes de fées, les contes qu'on pense connaître mais qu'on ne connaît pas, les contes oubliés, le sexisme, le racisme. Enfin vraiment tout un panel de sujets autour des contes de fées.
Lou Luby, elle en a pensé quoi? Parce que j'imagine la première démarche était de la contacter.
Tout à fait, donc je l'ai contactée via son site personnel, elle m'a renvoyé vers l'éditeur, et j'ai pu la rencontrer une fois ou deux pour discuter avec elle, et ensuite elle est venue assister à une lecture du spectacle, et dès le début elle était très très enthousiaste, et puis là elle est venue voir le spectacle il y a quelques jours et elle a beaucoup aimé, donc ça a été un grand soulagement pour toute l'équipe, parce qu'il était très important de ne pas trahir l'esprit de la bande dessinée, et effectivement de trouver cet équilibre entre information, dire les choses et humour. Et parce que c'est vraiment là-dessus qu'est la BD.
Leïla Moguez, quand Antoine Brun parlait de toute l'équipe, vous en faites partie. Vous êtes une des quatre comédiens et comédiennes qui sont sur le plateau de la Manufacture des Abbesses. On ne peut pas exactement décrire les rôles que vous jouez, parce que vous en revêtez beaucoup. Vous êtes une princesse, vous êtes une râleuse, vous êtes une... Il y a plein de rôles différents finalement.
Il y a plein de rôles différents, oui. On s'est un peu amusé sur le principe d'avoir ces personnages très archétypaux de contes. Donc une princesse, c'est moi, une fée, un roi. froid, un peu méchant comme ça, un prince très beau, très bête. On s'est amusé avec ça, on est parti de là, et puis ils prennent un peu tous des libertés, ils deviennent à la fois conteurs et puis ils jouent tous les rôles ensuite dans les contes. Donc en effet, la princesse, elle est là tout le long, mais de temps en temps, c'est une vieille dame un peu aigrie, de temps en temps, c'est une sorcière des mers, et son personnage file comme ça pendant tout le spectacle.
Antoine Brun, comment est-ce qu'on fait ? Parce qu'une BD, finalement, elle donne le texte, elle donne aussi des images. Il y a encore du travail à faire derrière ?
Beaucoup, beaucoup de travail encore à faire, parce qu'on n'est pas du tout sur la même approche par rapport notamment à la temporalité. Quand on est lecteur de bande dessinée, on peut prendre le temps de lire. Déjà, on ne lit pas forcément la bande dessinée en une fois, et puis on peut revenir en arrière s'il manque une information. Au théâtre, c'est les comédiens qui donnent le tempo. Donc déjà, ça fait une énorme différence. Et puis surtout, et y a plein d'informations qu'on peut donner en bande dessinée. Par exemple, vous faites intervenir un personnage une fois, il suffit de lui mettre un petit encart, un petit nom, et puis tout le monde comprend. Alors que sur le plateau, il faut prendre le temps d'amener le personnage, d'expliquer qui il est, de faire des flashbacks ou ce genre de choses, c'est plus compliqué. Donc il y avait beaucoup de travail quand même à faire.
Leïla Moguez, là il s'agit, pour reprendre ce que dit Antoine Brun, il s'agit de, vous parliez d'archétype, il s'agit de caractériser tout de suite le personnage, il faut être le personnage,
c'est ça.
Quitte à en être un suivant dans les 30 secondes.
Dans les 30 secondes, oui, tout à fait. Alors on s'est aidé de petites astuces, on s'est amusé, c'est vraiment un spectacle à accessoires. Il y a une ribambelle de chapeaux, de lunettes et de perruques, en dehors du fait que c'est très fun, ça nous a aidé nous vraiment dans la clarté, mais après oui, il faut immédiatement trouver la voix, le petit accent, la démarche, le chose pour caractériser les personnages, soit compréhensible tout de suite, sans être précipité, sans être flou.
Comment est-ce qu'on réunit cette... Alors, est-ce que c'est une troupe de comédiens ou est-ce que c'est une réunion d'occasion de comédiens, Antoine Brun ?
C'est un peu entre les deux, puisque tout le monde connaît un peu tout le monde dans l'équipe. Moi, par exemple, je travaille avec Leïla depuis plusieurs années maintenant, vraiment longtemps, et tout le monde connaît un peu tout le monde, mais personne n'avait travaillé, enfin on n'avait pas travaillé ensemble, tous les quatre comédiens sur le plateau, et moi à la mise en scène, jusqu'à présent ensemble.
Alors on va voir ce que ça donne, enfin on va plutôt entendre ce que ça donne. Un petit extrait de À la fin il meurt, la sale vérité sur les contes de fées, monté à la manufacture des abbesses.
Comparer un même conte écrit par Grimm et Perrault, c'est comme confronter les versions de témoins qui n'auraient pas du tout vu le même crime. Enquête sur un célèbre cas de féminicide. La barbe bleue.
Il était une fois une dame de qualité qui a deux filles en âge de se marier.
Trois filles.
Ah non, deux.
Non, trois.
Non.
Un jour, un puissant sorcier à la recherche d'une épouse frappe à leur porte déguisé en mendiant et enlève...
Mais c'est un grossier, non, c'est pas un sorcier crasseux, non, non, non. Mais un riche et respectable gentilhomme. Le seul souci, c'est qu'il fait peur aux filles avec sa barbe bleue.
Le seul souci ? Vraiment ?
Oui. Ah oui, et aussi que ses précédentes femmes ont mystérieusement disparu. C'est donc dans le consentement...
L'enlèvement.
Le plus total que la cadette...
L'aînée.
Épouse Barbe Bleue.
Le sorcier qui doit s'absenter.
Voici les clés de mes deux grands garde-meubles. Celle de mon coffre-fort où est tout mon or, celle du parking de l'antivol du cheval, et celle du petit cabinet. Je vous interdis d'y entrer. Mais je vous la donne quand même.
Trop curieuse. La jeune épouse ouvre la porte du cabinet. Il découvre les cadavres des anciennes femmes du Barbe Bleue. Et laisse tomber la clé qui se tache de sang.
Et merde ! Ah, le bicarbonate de soude nettoie tout, tu parles ?
Je suis rentré ! Où sont mes clés ?
Vos clés ? Quelles clés ? J'ai jamais vu de clé, moi.
Du sang !
Du sang ! J'ai dû me couper en rasant !
Vous êtes entré dans le cabinet ! Vous devez mourir !
J'avais pas ma lunette, j'ai rien vu !
Il lui coupe à la tête !
Moi !
Quoi ? Mais c'est l'héroïne, elle peut pas mourir.
Bah c'est pourtant parfaitement logique, elle a découvert son secret, il la tue. Ensuite, il lui découpe les membres pour l'arranger avec les autres. Méthode Marie Kondo.
On m'avait dit, le prince charmant arrivera, ne t'en fais pas, il y en a un pour toi. On m'avait dit, tu te marieras et tu vivras, heureuse dans ses bras, ton tour viendra, ne t'en fais pas. On m'avait dit, petite coccinelle,
m'a juste dit ne t'inquiète pas. Je savais pas qu'il fallait faire tous les royaumes de l'Occident. On m'a fait croire qu'on le trouvait par accident. On nous fait rêver avec des contes de fées qui n'arrivent jamais.
Sur Allegre FM, Radio Scénique s'intéresse aux contes. Oui, il était une fois, notamment les contes de fées. Et à la fin, il meurt, la sale vérité sur les contes de fées. C'est la pièce que vous, Antoine Brun, vous mettez en scène et dans laquelle vous, Leïla Moguez, vous êtes comédienne. Et c'est à Manufacture des Abbesses. Gros bouquin que cette BD dont vous avez tiré ce spectacle, 250 pages. Comment vous avez fait vos choix? Là, on vient d'entendre une étude comparative entre Grimm et Perrault. Qu'est-ce qui a été vos choix pour un spectacle d'environ 1h20, c'est ça?
1h10 à peu près. Il y avait un équilibre à trouver, déjà entre les contes les plus connus et ceux qui étaient complètement oubliés. Il y a 8 contes, donc il y en a 4 qui sont vraiment bien connus, Cendrillon, Petit Chaperon Rouge, etc. Et puis 4 autres qui sont vraiment pas du tout connus. Ensuite, les sujets qui m'intéressaient, par exemple le sexisme dans les contes de fées, moi ça me paraissait très important et évident d'en parler.
Parce que finalement c'est manifeste, les petits-enfants qu'on a, on a tous été choqués par le traitement des princesses qu'on fait la plupart du temps passer pour des nunuches. Résultat, vous, c'est votre prince qui est un peu con.
Oui, c'est effectivement... Alors, en fait, il y a quelque chose qui est assez redondant dans les contes de fées qui, moi, me fait hurler de rire, c'est le nombre de fois où le prince ne reconnaît pas la princesse. C'est un classique des contes de fées et moi, ça me fait vraiment beaucoup, beaucoup rigoler. Et du coup, si on va au bout de la logique, ça fait effectivement un prince un peu bête.
Oui, et puis la politique n'est pas absente du propos de ce spectacle, Leïla Moguez.
Non, en effet. Alors, on a essayé de prendre un point de vue vraiment avec de la distance, avec de l'humour. On n'avait pas envie d'avoir un truc moralisateur ou de rentrer dans des débats. Mais oui, ils sont là tout le temps, puisque le féminisme, le sexisme, à contrario, dans les contes, est hyper présent. On avait aussi vachement envie de parler de la cause LGBTQIA+, puisque ces contes-là ont été complètement éliminés à une époque de tous les contes qui étaient recensés.
Vous avez retrouvé un conte? Vous avez retrouvé
un
conte?
Oui, alors Loulubi l'a retrouvé. Moi, je me suis amusée d'ailleurs à essayer de le retrouver. On arrive à le trouver maintenant, mais c'est pas si simple. Alors, c'est le chien dans la mer. Oui, c'est ça, parce qu'il y a le prince et le chien. Bon, c'est le chien dans la mer. Et en effet, c'est un conte qui est complètement LGBT. Ou avec deux amoureux, deux garçons qui tombent amoureux, un prince et un chien maudit qui se transforme.
Alors c'est pas une colle, mais vous savez de quand date le conte?
Alors moi, ce que j'ai retrouvé, parce qu'il m'intéresse vachement ce conte-là, donc je me suis un petit peu documentée, c'est en fait a priori le conte d'origine est plutôt danois. Et 15e siècle dans les écrits. Alors, ouais, il n'est pas facile à tracer, puisqu'il n'a pas été beaucoup traduit. Donc, on le trouve en anglais, mais c'est déjà des versions un petit peu modifiées. Et celui le plus ancien que j'ai trouvé, c'est un danois du 15e siècle.
Antoine Brun, dans les choix, dans ce que vous avez retenu, parce que vous êtes également l'adaptateur de cette BD, dans les choix que vous avez retenus, c'est le choix de traiter de la psychanalyse, et puis la psychanalyse, notamment Bruno Bettelheim, qui a écrit la psychanalyse des contes de fées, vous lui faites son sort.
Alors, à la base, il me semble, après, il faudrait que j'en parle plus précisément avec elle, mais moi, c'est ce que j'ai ressenti en lisant la BD. Loulubi lui fait son sort. Il a été très décrié depuis quelque temps sur son analyse des contes de fées. Et dans l'ensemble, analyser d'un point de vue psychanalytique les œuvres artistiques me paraît toujours très... très risqué, et effectivement on s'amuse beaucoup avec les analyses les plus absurdes qu'ont pu être faites, parce qu'il n'y a pas que celle de Bettelheim, il y en a d'autres aussi qui sont citées dans l'histoire et dans la bande dessinée.
Il y a une conclusion intéressante que Loulubi fait au Petit Chaperon Rouge, je crois, c'est si elle est à... rappelez-moi ce qu'elle fait dire au Petit Chaperon Rouge, ce qu'elle fait dire à ce conte finalement.
Alors,
concernant le désir, il y a une espèce de désir non consommé vis-à-vis du loup, de la grand-mère. Enfin, c'était ça.
Ah ben, elle fait tout un mix, puisque c'est vrai qu'on s'amuse à citer plusieurs analyses. Donc, d'un coup, c'est la sexualité prématurée de l'enfant qui s'exprime.
Et ça, puis, c'est Bettelheim, effectivement.
C'est Bettelheim, ça, on est vraiment sur la psychanalyse classique. Et puis, un autre coup, en plein de versions différentes, c'est vraiment le rite initiatique de la jeune fille qui devient femme et de la souffrance et du séducteur qui est à la fois un protecteur de la figure masculine. Et puis après, ça part complètement dans n'importe quoi. On s'amuse à dire que c'est une symbolique du loup qui représenterait le fantasme homosexuel de l'auteur, de coucher avec son propre père.
Et ça, c'est une vraie analyse.
C'est une vraie analyse.
C'est une vraie analyse. Il y a effectivement quelqu'un qui a dit ça du côté de Gabriel.
On se demande si ça ne dit pas plus de celui qui analyse que de celui qui est analysé, finalement.
Il y a une chose qu'on a omise de dire, c'est que c'est un spectacle extrêmement drôle, caustique, dans lequel on se sent un petit peu remis en cause dans ces lectures d'enfants, dans les lectures de contes qu'on a pu avoir quand on était enfant.
Oui, oui, oui. Après, ce qu'on dit aussi, c'est que la société, elle évolue et elle a, ces derniers temps, depuis que nous, on était enfants jusqu'à maintenant, évolué très, très rapidement. Donc, effectivement, il y a des interprétations ou des façons de dire les contes qui ne pourraient plus être faites maintenant. Enfin, moi, j'ai deux filles et quand je leur lis la littérature pour jeunesse de maintenant, on n'est plus du tout sur les mêmes textes. Les contes de Grimm ou de Perrault sont complètement réécrits avec des personnages féminins positivés, avec totalement d'autres façons de dire les choses.
Leïla, j'ai envie de vous, Leïla Moguès, j'ai envie de vous poser une question. On a l'impression que vous vous amusez énormément sur le plateau. J'ai eu envie de citer les Robins des Bois en vous voyant, cet esprit caustique de grosses blagues, mais cadré au profit du théâtre.
Alors ça, je crois que c'est le plus chouette compliment qu'on ait eu depuis le début, cette comparaison avec les Robins des Bois. Moi, personnellement, je la garde, j'essaierai de m'en souvenir de temps en temps. Oui, je crois que c'est... En tout cas, on s'amuse énormément. Ça, c'était une constante, même dans les parties de répétition qui parfois sont plus compliquées quand on cherche, quand on a peur, quand on ne trouve pas encore. Il y avait quand même un petit côté récréation. On arrivait et on se disait, bon, bah, on va jouer tous les quatre.
Comment ça marche, Antoine Brun? Comment est-ce qu'on arrive à ce que la mayonnaise prenne
La chance. Oui, la chance, vraiment, et la chance d'avoir rencontré depuis des années des comédiens qui sont humainement très intéressants, enfin, des gens que j'aime réellement. Et donc, la réunion de ces quatre personnes donne quelque chose de très fun. Enfin, j'avais aucun doute sur le fait qu'en réunissant quatre personnes qui sont à la fois très talentueux, mais également qui font attention les uns aux autres, ça allait donner quelque chose de super.
Alors avant de vous remercier, on va les citer: Pierre-André Balande, Virgile Daudet, Clara Leduc en alternance avec Eugénie Gendron et vous-même, Leïla Moguès, Antoine Brun, Leïla Moguès. Merci encore à plomb que vous nous parliez de « Et à la fin, il meurt », la sale vérité sur les contes de fées à la Manufacture des Abbesses.
La vie c'est merveilleux, une journée passe, elle ne sera jamais plus la même que les journées qui passeront quand même. Une journée passe son chemin, une heure c'est merveilleux. C'est merveilleux. Quoi, elle est pourrie? Oui, mais elle est déjà partie. Jamais plus le même, mais je sais bien qu'il repassera quand même. Un enfant passe son chemin.
Radio Scénique par Éric Dauter. Le théâtre sur Aligre FM.
Radio Scénique qui aborde aujourd'hui les contes et particulièrement les contes sur scène. Eh oui, le conte, c'est merveilleux. On vous propose maintenant une perspective théorique et historique avec une autrice et une femme de théâtre. Elle est comédienne, dramaturge et philosophe. Dominique Paquet, bonjour.
Bonjour.
Je vais prendre mon souffle pour décliner votre identité. Vous êtes actrice, docteur en philosophie, autrice dramatique. Vous êtes docteur en philosophie, en esthétique, sciences et technologies des arts et vous avez été chargée de cours à l'université. Avec vous, on va évoquer votre ouvrage paru récemment aux presses universitaires de Bordeaux. Ça s'appelle « Abîme et surgissement, généalogie du merveilleux ». Qu'est-ce que le merveilleux ?
Nous allons commencer avec Aristote, hein, parce que c'est lui qui parle le premier du merveilleux, que l'on trouve plutôt dans la fable simple, plutôt que dans la fable complexe, c'est-à-dire une histoire courte, plutôt qu'une série, comme on pourrait dire aujourd'hui, ou un feuilleton. Alors, c'est soudain le surgissement d'un autre monde auquel nous croyons d'emblée. Il n'y a pas d'incrédulité, comme nous le voyons dans le fantastique. D'emblée, le spectateur ou le lecteur croit à ce qu'il lit, à ce qu'il voit. C'est pourquoi cela s'appelle abîme et surgissement, c'est-à-dire que nous sommes les yeux écarquillés, éblouis par ce nouveau monde qui s'ouvre devant nous.
Alors, ce merveilleux-là, il nous amène assez rapidement, vous avez parlé des fables, on va parler des fables et des contes. Qu'est-ce que c'est la différence entre la fable et le conte ? Et on va se lancer dans une petite histoire du conte.
Oui, alors la fable, pour nous, ce sont des histoires courtes avec des moralités. Les contes, bien sûr qu'il peut y avoir une moralité, il y en a souvent, mais ils peuvent être très longs. Et puis, ils appartiennent à un autre corpus que les fables. Les contes sont souvent des contes oraux qui n'ont pas d'auteur nommément et qui sont collectés ou racontés à la veillée par des conteurs et des conteuses, et qui se transmettent de génération en génération, même de pays en pays, de territoire en territoire, puisque certains viennent de loin. Blanche-Neige est un conte qui est issu de l'Iran, par exemple.
Quand est-ce que le corpus de contes tel qu'on le connaît en Occident a été écrit et figé ?
Alors, on trouve Basile, qui est un auteur italien qui, 50 ans avant Charles Perrault, a collecté des contes de son pays, de ses régions, mais ces contes-là venaient aussi peut-être du Proche-Orient ou même de l'Orient. Et on trouve dans son corpus, le Pentaméron, on trouve de Cendrillon, par exemple, La Belle au bois dormant, et d'autres contes qui sont restés, et que l'on retrouve aussi chez Charles Perrault, qui a publié à partir de 1697 les contes de ma mère Loi, avec le chaboté, les trois souhaits, les fées, le petit chaperon rouge.
Et bien d'autres. Et la belle au bois dormant. Ricalaube, disiez-vous. Donc, Basile, Perrault, deux fondateurs du conte occidental.
Fondateurs, transmetteurs, je dirais, médiums, passeurs. Parce qu'on se les racontait, mais ils n'étaient pas fixés. Ce qui a permis à Perrault de les écrire, de les collecter, de les écrire, à partir aussi du corpus de Basile, et de les faire connaître à l'aristocratie française. Il faut se dire que les contes merveilleux de Perrault, au départ, sont lus par les aristocrates, et ce n'est que plus tardivement qu'ils essaiment dans la littérature et dans le théâtre de foire, hein, au XVIIIe siècle, et qu'après, ils sont contés aux enfants. Puis après, nous avons les frères Grimm au XIXe siècle.
Le conte écrit est à la base d'essence aristocratique, c'est ce que vous me dites ?
Ceux de Perrault, non, mais ceux de toutes ces aristocrates qui écrivaient des contes, comme Madame de Villeneuve, par exemple, Madame le Prince de Beaumont, Madame d'Aulnoy, Mademoiselle de Lafitte, je ne les cite pas toutes, mais elles écrivaient des contes originaux à partir d'un schéma assez proche, à savoir toujours un milieu de rois et de reines, avec des épreuves, des malheurs, et une série, évidemment, d'épreuves qui, lors d'une quête, mènent à une résolution heureuse. Pourquoi je dis que c'est aristocratique ? Parce que dans les contes des cabinets des fées, qui est un corpus énorme de 41 volumes qui a été édité à la fin du XVIIIe siècle, on retrouve des invariants de l'aristocratie qui existent chez Perrault. Par exemple, le teint blanc comme d'Ulysse, comme de la neige, la bouche vermeille, les cheveux qui sont coiffés avec des perles, des plumes, des oiseaux, les teints diaphanes, le cristal qui nimbe les cheveux, ou les pierres précieuses aux oreilles, aux bras, aux doigts, les robes de diamants, toutes les robes couleur de temps ou de soleil, et que ça, ce sont des invariants de l'aristocratie telle qu'elle se présentait à l'époque. Il faut dire que j'ai travaillé sur la beauté, et que donc j'ai eu accès à des documents sur les produits de beauté pour se faire le teint d'albâtre, le teint blanc, la bouche vermeille ou vermeillette, les cheveux frisottés, comment coiffer les cheveux, et que l'on trouve ce modèle aristocratique de la beauté jusque chez Disney, avant qu'il ne s'intéresse et qu'il ne fasse entrer dans ses films des personnes de la diversité. Donc, par exemple, son Cendrillon, sa Belle au bois dormant, correspond aux critères de la beauté aristocratique des XVIe et XVIIe siècles et XVIIIe siècle.
Enjambons les époques et parlons du conte sur scène. Il y a le conte écrit et il y a eu le conte sur scène. Restons au XVIIIe, qui semble être une époque bénie pour le conte de fées. Comment ça se passe, cette transition du conte écrit au conte mis en scène ?
Alors les écrivains, les dramaturges se saisissent des contes et les transforment. Vous avez des contes où un personnage subalterne devient un héros, par exemple, ou une héroïne. Vous avez des contes satiriques, vous avez des contes grotesques et même des contes scatologiques ou érotiques qui sont joués ou lus dans les théâtres privés. Alors les théâtres privés, ce sont les théâtres qui sont dans les châteaux. Ou sinon, en public, c'est le théâtre de la foire, à la foire Saint-Germain, par exemple, ou à la foire Saint-Laurent, à Paris. Et il y a également des contes chantés, ou par écriteau, ça dépend, parce que vous savez qu'il y avait des interdictions au XVIIIe, on ne pouvait pas forcément dialoguer, donc il y a eu des licences qui ont été données. On pouvait pantomimer les contes. Hein, voilà. Et il y a eu une floraison de spectacles au XVIIIe, dont nous connaissons parfois les textes, et aussi des opérettes, enfin des opéras bouffes, qui ont été, par exemple, comme la Cendrillon dans Saume, hein, de 1750, qui est une très très belle adaptation pour l'opéra.
Avec Dominique Paquet, nous évoquons les contes à l'occasion de son ouvrage Abîme et Surgissement. Vous êtes sur Allegre FM 93.1.
Late at night when the wind is still, I'll come flying through your door. And you'll know what love is for. I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird. I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird. Yeah, yeah, yeah. Touch your lips with a magic kiss, and you'll be a bluebird too. And you'll know what love can do. I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird. Yeah, yeah, yeah. I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird.
Bluebird,
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 bluebird.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Toujours en compagnie de Dominique Paquet, à l'occasion de la publication de son ouvrage « Abîme et surgissement », Radio Scénique s'intéresse aujourd'hui au conte. On vient de parler avec vous, Dominique Paquet, de l'adaptation du conte sur scène. Ça a commencé au 18e. Et qu'en est-il du 19e siècle ?
Eh bien, c'est le théâtre des enchantements. Cela continue et les enfants y vont avec leurs parents ou leurs éducateurs. Mais le corpus s'enrichit. Ricky à la houppe, Barbe Bleue sont très souvent adaptés, comme Cendrillon ou La Belle au Bois Dormant, et parfois également en féerie. Alors la féerie a une histoire assez longue, et puis elle s'éteint parce qu'on n'y croit plus aux fées. C'est l'ère du rationalisme à la fin du 19e, donc ce sont les contes pour enfants qui prévalent sur les scènes parisiennes. Et puis nous arrivons après Grimm à Andersen à la fin du 19e, qui lui est un auteur de contes originaux, très inspiré par sa foi également, hein, puisque c'est très très moral et parfois extrêmement violent, les contes d'Andersen, mais c'est un corpus très très riche. Et puis en 1905, à Maurice Maeterlinck avec L'Oiseau bleu.
Alors vous accordez un long passage à ce qui semble être une espèce de saga qui a mobilisé des moyens énormes. Est-ce que vous arriveriez en 30 secondes à nous résumer l'intrigue de L'Oiseau bleu ?
Oui, la pièce met en scène la quête de l'oiseau bleu demandée par une fée à deux enfants pauvres, Tyltyl et Mytyl, car cet oiseau pourra guérir la fille de la fée. Donc c'est une quête immense au travers de mondes tous plus merveilleux, même s'ils sont effrayants parfois, les uns que les autres. Cette pièce a été créée par Stanislavski et jouée le 2 mars 1911 au Théâtre Réjeanne à Paris, rue Blanche.
Alors pourquoi elle est si importante cette pièce ?
Elle est importante parce que Maurice Maeterlinck, qui fait partie du courant symboliste en littérature, ne se prive de rien. C'est ça qui est extraordinaire. Donc les enfants traversent des mondes cachés qui sont à la fois des enfers, des paradis, des mondes de défunts, des mondes où les arbres sont vivants. Alors, il leur arrive des péripéties. Les animaux sont aussi merveilleux puisqu'ils se mettent à parler. Le rouet tourne seul, parce que ce qui est important dans le merveilleux, ce sont aussi les objets du merveilleux, les anneaux magiques, les épées. Là, c'est le rouet que l'on trouve aussi dans La Belle au Bois Dormant. Les cailloux, les heures se mettent à danser. L'âme du sucre de la lumière accompagne les enfants dans leur voyage. Ils traversent le pays du souvenir. Ils retrouvent leurs grands-parents, leurs frères et sœurs morts, qui vivent encore dans un monde à côté du leur. Puis c'est le palais de la nuit, où règne la nuit, les spectres, les maladies, les larmes, les étoiles, enfin, des allégories. Des animaux domestiques, des arbres les accueillent. Ils arrivent finalement à l'oiseau bleu, mais l'oiseau bleu, en fait, est chez eux. C'est ça, c'est que la quête, c'est une exploration de soi-même, de ses forces et de ses faiblesses, au travers de mondes inconnus, et que finalement, l'oiseau bleu, il est en nous, et il va nous guérir, et il va guérir tous les protagonistes.
Il y a une chose importante que vous avez dite, et que je relève là maintenant, c'est... à quel moment est-ce qu'on est passé du conte pour adultes au conte pour enfants ? À quel moment on a commencé à s'adresser aux enfants via le conte ?
Au 18e, il y avait quelques enfants, et même au 17e, qui assistaient au spectacle des foires. Molière, enfin le biographe de Molière en parle. Il allait, enfant, avec son grand-père, voir des spectacles sur le Pont-Neuf. Donc il y a un glissement, c'est-à-dire que toute la dimension courtoise et amoureuse du cabinet des fées n'est pas adapté pour les enfants. En revanche, les contes merveilleux recueillis par Perrault sont davantage pour les enfants. Mais Perrault a masqué certaines choses. Dans le conte Princeps, le premier conte de La Belle au Bois Dormant, La Belle au Bois Dormant est violée quand elle est réveillée par le prince. Et donc ça a été censuré. C'est donc le baiser sur le front ou sur la bouche, le French kiss, qui apparaîtra beaucoup plus tard.
On a parlé des femmes tout à l'heure, des femmes et du conte, des autrices de conte. Quelle a été leur importance dans la littérature du conte et du conte mis au théâtre aussi ?
Elles ont été mises sous le boisseau, mais on les redécouvre. D'abord parce que le cabinet des fées est aussi réédité et disponible. Et elles se sont auto-légitimée comme autrice. Et c'est fondamentalement important dans l'histoire de la littérature, c'est que pendant des années, on a considéré que c'était du travail de dame, ouvrage de dame, je dirais, alors que l'on s'aperçoit que c'était des véritables littératrices, qu'elles avaient du talent. Alors parfois, certaines recomposaient, on trouve parfois des répétitions, bon, des thématiques, des tropes qui sont communs à toutes ces femmes, mais il y a une patte. Il y a une originalité, il y a une recherche. Alors, ce sont des contes très moraux qui mettent en scène les héros du bien et les héros du mal, avec une résolution évidemment vers le bien, et qui mettent en question toute la cour d'amour, la séduction, les enjeux merveilleux de l'amour, mais aussi des enjeux violents et diaboliques. Donc, cela nous renseigne aussi sur ces 16e, 17e, 18e siècles. Et c'est aussi une exploration à l'intérieur d'une littérature peu connue.
On peut en citer quelques-unes de ces autrices.
Oui, Madame de Villeneuve, par exemple, qui la première a écrit une histoire enchâssée dans un corpus de contes et qui a écrit La Belle et la Bête, la première version de La Belle et la Bête, que Madame le Prince de Beaumont a réécrit et adapté. Et c'est à partir de ce texte de Madame le Prince de Beaumont que l'on voit toute la généalogie des contes, des films, etc. Nous avons Madame d'Aulnoy, l'oiseau bleu, mais pas seulement. On a
un autre oiseau bleu que celui de Maeterlinck.
Puis nous avons par exemple le prince Marcassin, qui est absolument formidable. Moi, je le conseille. Hein. Il fait énormément rire les enfants. Nous avons Mademoiselle de Lubert, Madame de Linteau, Mademoiselle l'Héritier, Madame Levesque et Mademoiselle de la Force. Et puis quelques hommes, Charles Duclos, Chevalier de Mailly et Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau s'y est essayé dans un conte qui est assez drôlatique, qui commence comme un conte merveilleux, mais qui devient un conte philosophique et très burlesque.
Il nous reste très peu de temps pour conclure. Entre les contes de Perrault mis en scène par Valérie Le Sort à l'Athénée, Boucle d'or à la Manufacture des Abbesses, La Belle au Bois dormant, Le Ballet à l'Opéra Bastille, Candide, Poche Montparnasse, Le Petit Chaperon Rouge à la Manufacture des Abbesses encore, il y a plein de contes en ce moment. C'est quoi le conte moderne aujourd'hui? Quelle est la version moderne du conte?
Alors, il y a deux choses. Soit c'est toujours le merveilleux, et un merveilleux dont nous avons besoin, parce que nos yeux sont souvent plongés dans les ténèbres, pour reprendre une métaphore de la lumière. Et puis, des relectures d'auteurs et d'autrices contemporains qui voient dans ces contes-là soit une subordination de la femme et qui veulent la montrer l'héroïne volontaire et qui se libère des liens qui l'emprisonnait, ou par exemple avec des enfants qui, eux, sont les héros et les héroïnes qui se libèrent des contes dont les yeux se dessillent pour voir le monde tel qu'il est. Ça dépend s'il y a une version brechtienne ou post-brechtienne des contes merveilleux. Mais il y a du merveilleux chez Brecht aussi.
C'est par ça qu'on va conclure. Dominique Paquet, on a essayé en 15 petites minutes de résumer les 252 pages de Abîme et Surgissement, votre ouvrage intitulé Généalogie du merveilleux, suivi de L'écriture du merveilleux dans le théâtre jeunesse. C'est un ouvrage savant grâce auquel vous saurez tout sur la généalogie du conte, sur le conte dans les années 70, 80, 90 et aujourd'hui. Dominique Paquet, merci.
À l'écoute d'Aligre FM 93.1, Radio Scénique consacre aujourd'hui son émission aux contes de fées. Stéphane Binz, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes comédien et marionnettiste de formation. Vous travaillez avec des compagnies de théâtre et de danse comme interprète, comme auteur. Vivante, c'est votre dernière pièce publiée en date de mars 2024. Mais là, votre rôle, et ce pourquoi nous vous avons demandé de participer à cette émission, ça a été de choisir parmi de nombreux textes soumis au comité jeunesse des EAT, les écrivains et écrivaines associés du théâtre. Qu'est-ce que ça donne ? Vous avez choisi quatre textes. Quelle était d'ailleurs l'offre que vous avez eue ? Vous avez reçu combien de textes pour cette sélection jeunesse ?
On a reçu une centaine de textes. En fait, l'appel à textes est lancé en septembre. Il dure une semaine et ça s'arrête au bout de 100 textes. Dès qu'on a reçu 100 textes, l'appel est clos. Et après, on est 9 dans le comité à se partager les textes.
Il y a des textes qui sont enthousiasmants, il y a des textes qui sont déprimants, il y a des textes lisibles, des textes illisibles. Parmi ces textes, vous en avez choisi quatre. Qu'est-ce que ça pourrait illustrer comme tendance du théâtre jeunesse ?
Je crois qu'on a fait un choix assez varié et qui représente assez bien l'écriture jeunesse, qui est quand même assez riche, diversifiée et très stimulante. On a deux textes qui sont plus ados, deux textes qui sont plus jeunesse primaire. Et en tout cas, ça évoque aussi plein de thèmes qui parcourent le monde en ce moment. Et c'est assez, on est assez content de notre choix dans le comité.
Alors, on va.
C'est représentatif.
On va un tout petit peu les détailler. Lisa Lheureux est lauréate pour Parmi les monstres. C'est un spectacle écrit pour les marionnettes.
Oui, le texte a été écrit pour les marionnettes, c'est ce qu'elle dit. Et c'est vrai que c'est un texte hyper... où les personnages, c'est marqué la jambe du frère, la bouche du frère. Enfin, il y a toute une décomposition du corps. Et on rentre dans un imaginaire hyper, hyper fertile. Et on a vraiment tous eu un gros, gros coup de cœur pour ce texte. Vraiment à une certaine unanimité.
Alors, Je suis un système solaire, c'est le texte de Cécile Mouvet. A priori, chaque scène porte le nom d'une planète, d'un ensemble de planètes ou d'un objet stellaire.
C'est ça, ouais. Il y a une métaphore filée autour des constellations, de la planète et tout ça. Et on suit un garçon avec un papy un peu ronchon et anti-système, justement. Et on a vraiment aussi été beaucoup séduits par cette histoire qui est simple, mais qui fonctionne très bien.
Alors, en lisant le début de Frankie de Maxime Champagne, j'ai un peu frémi parce que je vais citer les premières phrases. « Je compte jusqu'à trois. Si à trois, tu ne te montres pas, c'est une mère qui parle à son fils. Je te jure que je t'ouvre le ventre de bas en haut, que j'enfonce mes belles mains à l'intérieur et que j'arrache ton cœur noir de fils ingrat. » Ça parle de quoi, ouais. Frankie ? C'est atroce.
C'est vraiment... ça aussi, ça a été aussi... Ça nous a bien percuté. Et il a été sujet à beaucoup de débats parce qu'il laissait personne indifférent. Et comme le disait une des lectrices du comité, c'est vraiment une écriture du cauchemar, un théâtre de l'horreur pour ados. Et on a trouvé ça hyper audacieux. Et on s'est un peu posé la question de est-ce que c'était vraiment adressé ou pas ? Comment ça pouvait être... reçu et on pense que ça va être bien reçu. En tout cas, on avait envie de jouer le jeu de cette audace aussi.
Et le dernier texte, c'est un monologue de Jeanne, 16 ans, lycéenne, qui s'appelle Dark et qui est signé Pierre Berliou.
Exact, c'est un monologue. Donc là, pareil, c'est le seul monologue qui a été qu'on a sélectionné parmi les quatre textes. On se posait un peu les questions aussi, à savoir un monologue, comment ça se passe pour la jeunesse, mais le texte est vraiment très très bien, enfin, sinon on ne l'aurait pas choisi. Et c'est l'histoire d'une jeune, c'est très actuel, hein, c'est entre l'entre-deux-tours après la dissolution, avant la dissolution, pardon, au lieu de cette année, en 2024. Et on suit l'intérieur de cette jeune fille très militante, très engagée. Plutôt de gauche a priori et c'est assez, assez jouissif et puis il y a une écriture aussi qui ne cherche pas à imiter le langage jeune qui trouve son propre langage et c'est très agréable aussi à lire.
On est dans une émission qui traite des contes et des contes particulièrement sur scène. Là si on liste les quatre textes on est loin des contes de fées.
On est loin des contes de fées. Frankie, on est plus dans le conte cauchemar un peu à la Tim Burton. Donc c'est le seul qui pourrait s'apparenter à un conte, mais un conte très noir.
C'est représentatif de l'état de ce qu'on écrit pour la jeunesse. On a envie de les mettre au courant de ce qui se trame dans le monde.
Oui, je pense, ouais. En tout cas, dans les derniers textes, même au troisième tour, donc on a tous une dizaine de textes, et tous portent un regard sur le monde assez vif et assez engagé sur ce qui se passe, ouais.
C'était aussi une volonté de la part du jury que vous présidiez, de ce prix jeunesse des EAT, d'avoir des textes en prise sur le monde.
En tout cas, les textes qu'on a reçus à la fin, ceux qu'on a sélectionnés, c'est le cas. Et on est quand même assez attentif et attentive dans le comité. C'est quand même toujours cette notion d'espoir, malgré tout, quelle que soit l'histoire qu'on raconte, quel que soit le sujet.
Stéphane Bins, ces textes, ils vont devenir quelque chose. Ils vont être ce qu'on appelle mis en maquette au Théâtre de l'Opprimé les jeudis à midi, c'est ça ?
C'est ça. Donc il y a un texte, il y a aussi parce que dans le comité, j'ai oublié de dire, mais au troisième tour, il y a les élèves du 14e arrondissement.
Du conservatoire du 14e.
Conservatoire, voilà, qui nous ont rejoints et qui ont participé en tant que une voix pour en tant que jury. Et donc eux vont prendre en charge la lecture d'un des textes. Ils vont prendre Francky de Maxime Champagne.
On précise aussi une chose, c'est que ces écritures, elles sont francophones, c'est-à-dire que vous avez un certain nombre d'auteurs qui viennent du Québec.
Exact. On a reçu pas mal de textes québécois. Je dis qu'on a reçu parce que les textes sont anonymes. Mais dans le type de langage, dans les jeux de mots, dans le vocabulaire, parfois on peut situer un peu l'origine de l'auteur ou de l'autrice.
Alors, ce sont des textes...
Dans notre jury, on a deux Québécoises aussi.
Alors, ce sont des textes qui sont anonymes et qui doivent ne jamais avoir été joués ni publiés. C'est les règles de ce concours qui est... Enfin, de ce concours qui est très, très ouvert.
Appel à projet.
Projet qui est très ouvert. N'importe qui peut postuler et envoyer son texte. Stéphane Bins, on va vous remercier. Rappelons que vous étiez, pour cette année 2025, le président du jury des EAT, les écrivains et écrivaines associés du théâtre, pour ce prix jeunesse. Merci encore.
Merci à vous.
Pascal, aujourd'hui, dans votre chronique sur le théâtre dans la ville, on va essayer de comprendre avec vous s'il y a une architecture spécifique au théâtre. À quoi, après tout, est-ce qu'on reconnaît qu'un bâtiment est un théâtre et non une mairie ou un palais de justice ?
En fait, cela dépend à quelle époque on se situe. Nous avons vu lors d'une précédente émission le cas du Volcan au Havre, maison de la culture inaugurée en 1982 et dessinée par l'architecte Oscar Niemeyer, dans une forme lyrico-abstraite réalisée en béton. Cette architecture n'a rien à voir avec les théâtres construits un siècle plus tôt. On pourrait faire le même constat pour tous les édifices publics qui ont été conçus après la Seconde Guerre mondiale à la recherche de modernité. Mais aujourd'hui, nous allons regarder la ville et son décor urbain traditionnel et laisser de côté les objets singuliers du XXe siècle. Ce sera pour une autre fois. Le théâtre et la ville comme théâtre, la scène comme représentation de la ville sont des thèmes qui nous sont familiers et de bien vastes sujets. Nous nous contenterons de comprendre ce qu'est une architecture des lieux de spectacle dans son acception la plus générale. En gros, c'est quoi la gueule d'un théâtre ?
Vous voulez parler de la façade, je suppose.
Oui, la façade, car c'est ce que l'on voit avant tout, mais le volume aussi, la silhouette, la structure. En fait, à quel moment apparaît un édifice dédié à cet usage et où ? En France, à Paris, à Londres, en Italie. Bien sûr, les premiers théâtres que nous connaissons datent de l'Antiquité grecque puis romaine. Mais comme nous ne ferons pas non plus une encyclopédie de l'histoire du théâtre, nous allons nous transporter dans la ville classique, ou plutôt néoclassique. Notons tout de même que les Romains sont les premiers à construire un édifice clos dédié avec un amphithéâtre à gradins en demi-cercle et un plateau délimité par un mur de scène architecturé. Une fois passé le Moyen-Âge, sur lequel nous reviendrons un jour, nous esquiverons le théâtre élisabétain dont nous avons déjà parlé. Rappelons que pendant longtemps, les représentations théâtrales, les mystères ou les pastorales étaient abritées par des installations provisoires construites dans des salles ou des cours des châteaux. Ou bien, comme à Vicence, pour le Teatro Olimpico, en 1585, dans une ancienne prison.
De cela, on a déjà parlé aussi dans la première émission. Bon, mais cela ne nous dit toujours pas, mon cher Pascal, à quoi ressemble un théâtre.
Alors, prenons un exemple, celui du Théâtre des Variétés, construit en 1807 sur le boulevard Montmartre à Paris. La façade est assez étroite, composée de deux portiques à colonnes superposées. Elle est surmontée d'un théâtre, d'un fronton triangulaire à la manière d'un petit temple antique. Cette architecture, qui s'inspire en fait du style palladien, déjà mis en œuvre pour le Théâtre de l'Odéon en 1780, sera le style récurrent de beaucoup d'établissements de spectacle. On peut évoquer le théâtre construit en 1780 à Besançon sur les plans de Claude-Nicolas Ledoux dans un style très dépouillé, un parallélépipède rectangle surmonté d'une toiture en tronc de pyramide dont la façade est ornée d'un portique à colonnes ioniques et sans fronton. Tout comme au théâtre de la Monnaie à Bruxelles, tel qu'on le voit aujourd'hui, reconstruit en 1859 par l'architecte Joseph Pollaert. La façade du Théâtre Royal à Londres a été dessinée par John Nash en 1821. C'est aussi un portique avec des colonnes à chapiteaux corinthiens cette fois. Il est surmonté d'un fronton. On pourrait multiplier les références à travers le monde. Ce que l'on peut dire, c'est que ce modèle se met en place dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle et se perpétue jusqu'à la fin du XIXe. Et même plus tard, voir le Théâtre des Abbesses à Montmartre, construit dans les années 1990 par l'architecte Charles Van den Hove, dans un style néoclassique. Ici, on comprend que l'archétype du théâtre à l'ancienne, c'est bien un portique à colonnes et un fronton dans une version simplifiée. On appelle ça aussi le postmodernisme.
Il n'y a vraiment pas d'alternative à ce type de, à ce style architectural.
Si, bien sûr, de nombreuses salles de spectacle se sont affranchies du style palladien, et si on s'en tient à Paris, il y a l'éclectisme propre au Second Empire. C'est le cas du Théâtre de l'Opéra Comique, reconstruit en 1898 par Louis Bernier. La façade, qui surplombe la petite place Boieldieu, est plutôt massive, dotée d'un avant-corps à trois arcades monumentales sur un soubassement en bossage. Des colonnes corinthiennes supportent des statues devant un attique surmonté lui-même d'une épaisse corniche. C'est une architecture cossue, un mélange de Renaissance et de baroque. En tout cas, la façade d'un théâtre à cette époque affiche une monumentalité qui appartient pleinement du décor urbain et participe au prestige de la ville.
Fin de cette 12e édition de Radio Scénique, votre magazine sur la création théâtrale à l'antenne d'Aligre FM 93.1. Merci à nos invités. Et à la fin, ils meurent. Non, pas nos invités, c'est le sous-titre de... C'est le titre du spectacle, le sous-titre est La sale vérité sur les contes de fées. Et c'est à un moment de drôlerie et d'analyse que nous convie Antoine Brun, qui a adapté une BD de Lou Luby et en a fait un spectacle. Il était notre invité accompagné de Leïla Moguez, l'une des comédiennes de cette comédie qui fait rire et donne à penser, c'est à la manufacture des abbesses. Dominique Paquet aussi nous donne matière à réflexion. L'autrice du très savant « Abîme et surgissement, généalogie du merveilleux » a offert un pendant historique à notre émission. Son ouvrage est paru aux presses universitaires de Bordeaux. Enfin, Stéphane Bins nous en a dit un peu plus sur la sélection Jeunesse 2025 des auteurs et autrices associés du théâtre. Ce sont des textes que nous allons suivre ici à Aligre FM et dont nous vous donnerons à écouter des extraits et dont nous interviewerons également les auteurs. Ma fidèle équipe était à mes côtés. Merci donc à Pascal Dutertre pour sa chronique et à Pierre Demkoff qui m'a assisté et a choisi les illustrations musicales de ce programme qui ont beaucoup plu à nos invités. Côté technique, un grand merci à Enrico Mastrogiovanni et bienvenue à Loredana Farina. Ils étaient en compagnie de Kumba Falquast et également de Renaud Poussin. Merci à cette belle et grande équipe. Nous nous retrouverons le 28 avril pour une nouvelle édition de Radio Scénique. En attendant, il est 10h, quasiment 55 sur l'antenne d'Aligre FM. Après le théâtre de Radio Scénique, vous retrouverez à 11h toute l'équipe de Vive le Cinéma.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.